Grand Angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, le grand angle de ce jour. L'enjeu pour Donald Trump d'obtenir un accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Enjeu sur les plans politiques, diplomatiques, stratégiques. Notre invité est politologue, spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Bonjour.
Bonjour.
Tout simplement, Donald Trump affirme être proche d'un accord de paix durable entre Israël et l'Iran. Pourquoi cet objectif est-il devenu si important pour lui aujourd'hui, sur le plan politique et sur le plan de la politique intérieure?
Oui, alors en préalable, on va quand même dire qu'il dit être proche d'un accord depuis la première semaine de ce conflit. Et c'est vrai que Donald Trump veut absolument un accord. Alors il y a trois objectifs pour Donald Trump. Le premier, là, immédiat, après ces 100 jours de guerre, c'est de sortir de cette guerre. Il a été élu en promettant de ne pas entraîner les États-Unis dans de nouveaux conflits au Moyen-Orient. Or, depuis février, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Et c'est une guerre coûteuse, risquée, politiquement très dangereuse. Et chaque semaine qui passe augmente le risque d'attaque, d'une flambée du prix du pétrole et puis d'une lassitude de l'opinion publique, voire d'un rejet. Trump sait que les électeurs américains, qu'ils soient MAGA ou pas, ne veulent plus ces guerres et désormais, ils ne les pardonnent plus. Le deuxième objectif, c'est d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Alors, c'est le cœur officiel des négociations. Washington exige la remise ou la destruction de l'uranium hautement enrichi et des limitations sur le programme nucléaire. Ça, c'est déjà ce qui était demandé avec le JCPOA et qui ensuite était redemandé avec cet accord déchiré par Trump. Ce serait pour Trump l'accord avantageux qui lui permettrait de sortir d'une guerre qui pourrait devenir permanente. Le troisième objectif, c'est d'obtenir un succès diplomatique personnel. Et c'est probablement l'aspect le plus important, parce que Trump aime les accords spectaculaires et il veut pouvoir dire « Obama a signé un mauvais accord en 2015, moi j'ai fait le contraire ».
Et un échec serait perçu comme un reniement de cette promesse de non-interventionnisme, c'est ce qu'il avait affirmé pendant sa campagne, et cela aurait un impact bien entendu sur les élections de mi-mandat du 3 novembre prochain, ces élections particulièrement importantes pour Donald Trump.
D'abord, ce qui aurait un impact, c'est le prix du pétrole. Il cherche à avoir une baisse du prix du pétrole, c'est le point essentiel. Et le détroit d'Ormuz est l'artère stratégique du commerce mondial. Donc, chaque crise qui fait monter le prix du pétrole lui coûte en électeurs. Mais actuellement, depuis trois semaines, il est sur une baisse des prix aux États-Unis et bien sûr, il veut pouvoir ramener ce prix à moins de 4 dollars le gallon et si possible, même plus près possible de 3 dollars. C'est aussi l'image de faiseur de paix. Paradoxalement, Trump est perçu comme un dirigeant agressif désormais, alors que lui, il voudrait être présenté comme celui qui met fin au conflit. Là-dessus aussi, il peut y avoir un effet sur les midterms parce que, encore une fois, les Américains ne veulent pas de quelqu'un d'agressif à l'étranger, mis à part les MAGA qui le suivent sur absolument tout. Mais pour l'ensemble des Américains, c'est une autre histoire.
Justement, on voit aux États-Unis des toutes petites manifestations, des petits rassemblements, des personnes qui demandent la fin de la guerre en Iran, notamment. Qui sont ces personnes?
On a effectivement des gens anti-Trump qui vont demander la fin de cette guerre. On a des pacifistes et il y en a toujours eu aux États-Unis. Il y a des gens aussi qui considèrent que cette guerre est complètement illégitime, à juste titre d'ailleurs, puisque encore aujourd'hui, même si on peut expliquer en gros quels sont les objectifs d'un traité de paix pour Donald Trump, on n'a pas ses objectifs de guerre. On ne sait pas pourquoi il est allé. Et ça, c'est quelque chose qui rend cette guerre illégitime. Elle est également illégitime parce que sur le plan du droit international, elle n'est pas légitime. Et beaucoup de légitimistes du droit international protestent contre cela aux États-Unis. Mais insistons bien, c'est très peu de gens. Et ça ne joue pas sur le moral des États-Unis aujourd'hui.
Alors, Donald Trump apparaît parfois, depuis peu de temps, plus pressant envers Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Est-ce qu'on assiste à une évolution de la relation entre les deux hommes et quelles conséquences cela peut avoir ?
Absolument, mais alors c'est pas nouveau en réalité avec Trump. C'est quelque chose qui s'est dessiné depuis un petit moment parce que les attentes et les aspirations des deux pays qui sont les États-Unis ne sont pas les mêmes vis-à-vis du Proche-Orient. Il faut savoir que pour Israël, c'est sa sécurité immédiate qui est l'explication du mouvement de Netanyahou avec la lutte contre le Hezbollah et contre les Palestiniens. Ça, ce n'est pas l'affaire des Américains. Eux, ils ne sont pas en guerre contre le Hezbollah, ils sont en guerre contre l'Iran. Parce que l'Iran leur semble être un facteur qui déstabilise l'ensemble de la région et qui est dangereux pour les voisins avec lesquels Donald Trump veut faire des accords, notamment poursuivre les accords d'Abraham. Et là, je pense à l'Arabie Saoudite qui n'est pas prêt de signer encore dans cet accord pour essayer d'avoir une paix globale dans la région, parce que sur le plan du commerce, sur le plan de la circulation des biens et des personnes, c'est quelque chose de très important. Alors, la guerre contre les proxys fait partie, bien sûr, des à côté, mais ce n'est pas l'objectif numéro un des Américains. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un agacement de la part de Donald Trump, parce qu'il peut obtenir, un accord avec les Iraniens, mais les intérêts immédiats d'Israël font que ça met beaucoup de complexité dans sa démarche. Donc il y a effectivement un peu d'eau dans le gaz. Il y a aussi une relation qui a évolué, parce que c'est plus 1948, hein, on est aujourd'hui en 2026 avec des intérêts différents. Israël est devenu un grand pays qui a ses propres logiques et qui n'a plus forcément besoin du parapluie américain. En revanche, ce sont deux pays qui vont rester très proches parce qu'ils ont des accords de coopération, notamment militaire, de renseignement. Et puis, on sait que les Américains, par exemple, ont fait beaucoup de progrès sur le plan militaire en se servant des avancées israéliennes qui est en guerre quasi permanente. Et les Américains en tirent des leçons et améliorent leur outil militaire également. Donc, tout ça va se poursuivre. Donc, il y a une transformation, mais elle va se faire assez lentement.
Et aujourd'hui, les Européens et les pays arabes, est-ce qu'ils regardent Donald Trump comme un médiateur crédible ou comme une partie prenante du conflit? On se souvient que les premières frappes étaient israélo-américaines.
Absolument. Alors, c'est très compliqué parce que, après ce que je vais vous dire, les Européens sont, et les pays arabes, hein, sont sur la même ligne que Donald Trump. Ce qu'ils veulent, c'est une région apaisée. Et qui ne veut pas la paix, hein, c'est une la palissade que de dire cela. Mais la façon dont Donald Trump est rentré dans cette guerre a déplu. Elle a déplu parce que Donald Trump s'affranchit de toutes les règles et que à ce moment-là, ben, c'est la loi du plus fort dans ce monde. Et justement, les Nations Unies ont été bâties pour éviter que cela se passe ainsi. Alors, ça se passe avec une démocratie, tant mieux, mais ça pourrait être autrement. Et puis, la confiance envers Trump et les États-Unis s'est quand même émoussée. Donc, il y a eu beaucoup de tirage qui a été compliqué. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que Donald Trump, qui s'est laissé enfermer dans cette guerre, veut en sortir à tout prix. Et donc, il rejoint les intérêts à la fois des pays arabes et des pays européens. Et d'ailleurs, on a pu noter que sa façon de leur parler a beaucoup changé ces dernières semaines, parce qu'il a terriblement besoin d'eux pour essayer d'avoir ce qui serait une victoire sur le plan intérieur dont il a besoin aujourd'hui, principalement parce qu'on arrive aux élections du mi-mandat.
Justement, ces fameuses mid-termes de novembre prochain, il en est où dans les enquêtes d'opinion, Donald Trump, son parti en tout cas?
Alors, méfiez-vous des enquêtes d'opinion. J'ai envie de vous dire qu'à 4 mois des midterms, Nixon était donné perdant et les a gagnés. C'est quelque chose d'assez courant, ça, aux États-Unis. On voit que le récit, le narratif, comme on aime dire sur les plateaux, est en train de changer terriblement aux États-Unis. Donald Trump revient sur le plan économique, mais en gommant l'inflation et en mettant en avant le chômage qui est bon, hein, il est à 4,3%. Donc il y a des bons résultats sur le chômage, de l'emploi industriel qui repart également. Et ça, c'est bon avec les promesses qu'il avait annoncées. L'inflation, bah, il espère la faire baisser en se retirant du conflit en Iran. Et si jamais il y avait un accord assez rapidement, il gagnera sur ce point-là, puisque ce qui plombe l'inflation aujourd'hui, c'est le prix de l'essence. Et donc, s'il peut faire redescendre, eh bien, il pourra mettre en avant que c'était temporaire et que c'était pour le bien de tous et que l'essence sera très rapidement bien moins chère qu'elle n'était avant. Enfin, vous connaissez la façon de parler de Donald Trump et beaucoup le croiront parce que c'est ainsi. Les électeurs vont se souvenir des dernières semaines et non pas des derniers mois.
Merci Jean-Éric Brana. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. Fin de votre émission Grand Angle. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.